RCF.
9h, 11h, Je pense donc j'agis avec Melchior Gormand.
En France, la population vieillit et l'espérance de vie s'allonge. Les prêtres sont concernés et beaucoup parmi les prêtres diocésains font partie de ce qu'on appelle les aînés. Comment vieillissent-ils et quels lieux peuvent-ils les accueillir lorsqu'ils sont en perte d'autonomie? On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis. Et à l'inverse, dans la seconde partie de l'émission, on s'intéressera aux nouveaux prêtres, aux jeunes prêtres qui, eux aussi, doivent être accompagnés dans leur mission. Vous entendrez à 10h deux associations qui agissent en ce sens. Vous êtes les bienvenus, comme chaque matin, pour participer à Je pense donc j'agis. Vous avez un prêtre âgé dans votre famille ou vos proches. Comment est-il accompagné? Est-ce qu'il a rejoint un lieu spécifique? Et si vous êtes prêtre aîné et que vous sentez que vos forces diminuent, comment appréhendez-vous le grand âge? On vous attend au 04 72 38 20 23 par mail à direct@rcf.fr ou dans le groupe Facebook Je pense donc j'agis.
Je pense donc j'agis. 04 72 38 20 23.
Avec Véronique Alzieux, rédactrice en chef Foi et Spiritualité. Bonjour Véronique.
Bonjour Melchior et bonjour à tous. Un agenda surbooké, des rendez-vous qui s'enchaînent, des réunions qui se multiplient. Comme beaucoup d'actifs, un prêtre diocésain a souvent un emploi du temps bien rempli, même lorsque de la retraite a sonné, c'est-à-dire au moment de son 75e anniversaire. Aujourd'hui, que l'on soit prêtre ou laïc à 75 ans, cependant, on peut être en pleine forme et avoir suffisamment d'énergie à consacrer encore à toutes sortes d'activités. Mais quand vient le grand âge et la diminution, voire la perte d'autonomie, des problématiques particulières se posent pour un prêtre diocésain. Pas de femme, pas d'enfants, pas de petits-enfants qui peuvent prendre soin de lui. Bien sûr, il peut y avoir des neveux ou des nièces, mais souvent l'éloignement géographique complique l'accompagnement vers le grand âge et la solitude peut être une vraie souffrance. Alors, où et comment ces prêtres sont-ils pris en charge? Qui pour les accompagner et les conseiller? Qui pour payer des soins, une maison de retraite ou un EHPAD? Puis quelle responsabilité pour le diocèse dans la prise en charge de ces prêtres aînés? C'est le thème de cette émission, Melchior, que nous allons nourrir d'un document paru en 2019 dans Documents Episcopat qui s'intitulait « Prêtres aînés au cœur de l'Église diocésaine ». Et j'aimerais vous lire un passage qui a été mis en exergue dans ce document. Tiens-toi dans l'assemblée des vieillards et si tu vois un sage, attache-toi à lui. Si tu vois un homme de sens, va vers lui dès le matin et que tes pas usent le seuil de sa porte. C'est un extrait de la Bible. On va s'appuyer sur ces mots, Melchior, pour commencer cette émission.
Oui, ça donne le ton et on va en parler avec nos trois invités, Véronique.
Père Jean-Marie Onfray, bonjour à vous.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes ancien responsable du service santé et justice au sein du Service national des familles et sociétés de la Conférence des évêques de France. Et vous vous êtes beaucoup intéressé à la question des prêtres aînés ou âgés. Alors, il paraît qu'on dit prêtres aînés. Gérard Voléon, merci à vous d'être avec nous également.
Bonjour.
Vous êtes trésorier de la Fondation nationale du clergé, dont vous nous parlerez dans un instant. Et nous avons également le plaisir d'être avec Marie-Claude Brandenbuch. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes assistante sociale en Seine-Saint-Denis et vous travaillez tout particulièrement auprès des prêtres aînés. Père Jean-Marie Onfray, pour commencer, quels sont les services de la Conférence des évêques de France qui prennent en compte cette réalité des prêtres aînés en perte d'autonomie?
Alors, de fait, moi, j'étais chargé des questions de santé, et dans les questions de santé, il y a bien sûr la question de la santé des prêtres, au sens large du terme, qu'ils soient en activité ou qu'ils soient à la retraite, et il y a une commission prêtres aînés, donc c'est cette commission qui a produit le document Episcopat dont vous parliez, mais je voudrais juste préciser que dans la société, en particulier depuis la Covid, on nous rappelle qu'on est aîné, qu'on est âgé, qu'on est à risque à partir de 60 ou 65 ans. Et je trouve que c'est très important parce que les prêtres, comme tous les autres, sont à la retraite à partir de 65 ans, c'est-à-dire qu'ils sont payés par la CAVIMA, qui ne sont plus payés, j'allais dire, directement par les diocèses. C'est la CAVIMA qui leur donne un traitement. Et il faut qu'on réfléchisse à ce premier vieillissement, le vieillissement entre 65, mettons, et 85. La dépendance est une chose, mais quand on a mal préparé le premier temps du vieillissement, et c'est vrai qu'on l'oublie de bien la préparer, beaucoup de prêtres sont hyperactifs dans ces années-là. 75, c'est les curés comme les évêques. C'est-à-dire que moi, je ne suis plus curé depuis plus de 20 ans, mais j'ai 75 ans et je continue de faire les mêmes choses que je faisais il y a 5 ans. Et dans 5 ans, j'espère pouvoir continuer. C'est-à-dire que le prêtre est en activité jusqu'à sa mort.
C'est-à-dire que un curé, pour les auditeurs, rappelez-nous ce qu'est un curé, qui n'est pas la même chose qu'un prêtre. Prêtre sans être curé.
Voilà. Alors, prêtre, on est prêtre parce qu'on est ordonné. J'ai été ordonné il y a 45 ans et je serai prêtre jusqu'à ma mort. Et on enterrera un prêtre. Et vous savez, symboliquement, on met l'aube et l'étole sur le cercueil du prêtre. Donc, un prêtre est prêtre jusqu'à sa mort. Et certains prêtres, s'ils ne sont pas trop dépendants, sont demandés pour célébrer des messes, pour célébrer des mariages, des sépultures, des baptêmes, jusque très très tard, tant qu'ils le peuvent. Par contre, un curé, c'est le responsable d'une paroisse, et comme les évêques responsables d'un diocèse, le droit canon demande qu'à 75 ans, ils donnent leur démission, mais ils démissionnent pas de la prêtrise, ils démissionnent de la responsabilité de curé.
Marie-Claude Brandenbus, j'aimerais que vous nous expliquiez en quoi consiste votre travail d'assistante sociale, en particulier auprès des prêtres âgés.
Alors, notre travail, on est d'assistante sociale, on ne travaille déjà pas toute seule. On travaille avec une équipe qui est nommée par l'évêque. Ça veut dire qu'on est en mission. Moi, j'y suis depuis environ une dizaine d'années au sein de cette équipe. Alors, notre travail consiste, bien sûr, à veiller au bien-être physique, psychologique, social, relationnel et spirituel de nos prêtres, de les soutenir dans tous les aléas de la vie quotidienne et surtout de les accompagner dans les grandes décisions, de les aider à avoir le discernement nécessaire pour le consentement dans leur choix de vie. Car bien sûr, c'est le plus difficile à faire de consentir à entrer, par exemple, à l'EHPAD.
Donc, on en parlera.
Nous devons toujours aider et accompagner.
Vous êtes salarié du diocèse ?
Non, nous avons des statuts très différents. Pour vous situer à peu près, il y a donc 85 diocèses en France, environ. Nous sommes une trentaine d'assistantes sociales. Et le reste, parce qu'il y a de très petits diocèses qui n'ont pas les moyens d'avoir une assistante sociale. Moi, je ne suis pas salariée, je suis auto-entrepreneuse parce que je suis à la retraite. Donc, je suis auto-entrepreneuse pour peser moins lourd sur les charges du diocèse. Il y a aussi des assistantes sociales inter-entreprises et beaucoup sont à temps partiel.
D'accord.
Il y a que quelques gros diocèses qui ont des assistantes sociales à temps plein, comme à Lyon, Marseille, Besançon, je crois.
Votre travail est très spécifique ou il est finalement celui d'une assistante sociale classique ?
Assistante sociale dans la vie courante, mais nous avons en plus cet accompagnement très particulier parce que nous avons le temps. C'est ce qui est très important. On a bien le temps d'accompagner dans la vie. Quand on est assistante sociale dans une entreprise ou dans les services publics, il faut toujours être en action, toujours être dans le faire. Là, nous prenons le temps d'accompagner, car le vieillissement, c'est ça qui est difficile. Il faut s'asseoir, écouter.
Alors, on entrera un peu plus tard dans les détails de ce travail, Marie-Claude Brandenbus. J'aimerais qu'on entende tout de suite Gérard Voléon, pour que vous nous disiez comment la Fondation pour le clergé, dont vous êtes le trésorier, œuvre justement également en faveur et en soutien de ces prêtres aînés.
Oui, comme vous venez de le dire, la Fondation pour le clergé, son objectif et son objet, c'est de contribuer à prendre soin des prêtres âgés et de comme vous le disiez dans votre introduction, de ceux qui ont consacré leur vie au Seigneur et qui n'ont pas forcément autour d'eux un réseau familial qui va prendre soin d'eux dans le grand âge.
Alors concrètement, ça passe par quoi ?
Alors concrètement, ça passe par, disons, comme toutes les fondations, nous allons fédérer un certain nombre de donateurs qui sont très sensibles à cette cause et qui vont pouvoir contribuer à cette action par des dons. Donc la Fondation pour le clergé va collecter des dons auprès d'un réseau de donateurs fidèles. On a environ 10 000 donateurs.
Et qu'est-ce que vous faites de ces dons ?
Et voilà. Et ces dons vont nous permettre d'aider les diocèses, les congrégations, pour les besoins qui remontent pour prendre soin des prêtres aînés. Alors ça peut être des aménagements de domicile, un monte-escalier par exemple, mais ça peut être l'aménagement de lieux de vie adaptés, des EHPAD ou des foyers logements. Ça peut être aussi d'aider les diocèses à payer les cotisations sociales, puisque avant l'âge de 65 ans, la couverture sociale d'un prêtre coûte à peu près 7 000 euros par an. Donc ça fait un budget important pour les diocèses. Et le réseau de donateurs de la Fondation permet de soutenir toutes ces actions. Et puis peut-être on aura l'occasion d'en reparler plus tard. Il y a aussi un certain nombre d'actions qui sont en direction des prêtres plus jeunes, parce que comme c'était rappelé tout à l'heure, le vieillissement, ça se prépare. Et il y a donc, je pourrais en parler tout à l'heure, un certain nombre de choses en direction des prêtres plus jeunes.
Donc si je comprends bien, la Fondation pour le clergé vient en soutien. Vous ne prenez pas d'initiative, vous venez soutenir, aider au financement la plupart du temps d'actions qui peuvent faciliter la vie de ces prêtres âgés parmi d'autres
Des actions concrètes. Aussi des actions de formation, des enquêtes. On a participé au financement de la grande enquête qui a eu lieu il y a 2 ans sur la santé des prêtres. Et voilà. De toute manière, conformément à notre objet, c'est le bien-être des prêtres et en particulier des prêtres âgés.
Et justement, les prêtres âgés, les prêtres aînés, hein, vous choisissez la formule qui vous convient. On en parle ce matin dans Je pense donc j'agis avec vos témoignages. Si vous êtes un prêtre aîné, que vous sentez que vos forces diminuent un peu, comment vous appréhendez le grand âge ? On attend vos témoignages au 04 72 38 20 23. Et même question, si vous avez dans votre entourage un prêtre âgé, comment est-il accompagné ? Est-ce qu'il a rejoint un lieu spécifique ? 04 72 38 20 23 ou par mail à direct@rcf.fr.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieux.
Et avec nos trois invités, Véronique, qui nous accompagnent dans cette première partie.
Le père Jean-Marie Onfray, Gérard Voléon et Marie-Claude Brandenbuch. Jean-Marie Onfray, selon vous, puis je poserai la question à Marie-Claude après, quelles sont les questions, les problématiques spécifiques qui se posent lorsqu'on a affaire à ce public, si j'ose dire, de prêtres aînés ?
Alors, j'oserais dire que c'est les mêmes questions, là aussi, je vais vous décevoir, c'est les mêmes questions pour tous les prêtres. C'est-à-dire, il y a une contradiction dans la réalité du prêtre diocésain, je ne parle pas des religieux.
Oui, il faut préciser, c'est vrai que depuis le début, on parle de prêtres, mais il faut dire les prêtres diocésains.
Diocésains. Les prêtres diocésains, donc il y a une contradiction en eux-mêmes. Ils sont à la fois très individualistes et leur vie pastorale souvent les conduit à être seuls. Et en même temps, ils sont membres d'un presbytérium. Leur ordination, c'est d'avoir reçu l'imposition des mains non seulement de l'évêque, mais de tous les confrères. Donc il y a un lien étroit et l'Église, du fait même du droit canon, et prend la responsabilité, quand elle ordonne quelqu'un, de l'accompagner jusqu'à sa mort, aussi bien en termes de logement qu'en termes de nourriture. Donc un prêtre qui s'engage est sûr que jusqu'à sa mort, l'Église va faire attention à lui, aussi bien en termes de nourriture qu'en termes de logement. Et en même temps, les prêtres sont très individualistes, bon, pour 36 raisons, et donc c'est ce conflit.
Quand vous dites qu'ils sont individualistes, ça signifie qu'ils vivent seuls, ils ne font pas partie d'une communauté
parler. Non. Quand je dis qu'ils sont individualistes, c'est qu'ils veulent être seuls. C'est-à-dire qu'il y a une très grande habitude, j'allais dire, une très grande perception de son individualité de la part des prêtres qui rend difficile, par exemple, la santé et l'enquête qui était sur les prêtres de moins de 75 ans montre qu'il est difficile de se préoccuper parce que le prêtre ne parle pas de sa santé. Le prêtre communique très peu sur ses difficultés existentielles parce
Pourquoi?
Qu'il est situé donc un peu, oh, parce qu'il est situé un peu au-dessus. Vous savez, c'est ce qu'on appelle le cléricalisme et que c'est difficile, de même que c'est difficile pour un médecin de dire qu'il est fragilisé, c'est difficile pour un prêtre de dire qu'il est fragilisé. Et les fragilisés ne sont pas seulement les prêtres aînés. Il y a des prêtres fragilisés dont le conseil presbytéral, dont le conseil de l'évêque porte le souci. Je vois, quand j'étais au conseil épiscopal, on portait le souci d'un certain nombre de prêtres qui n'étaient pas du tout des prêtres aînés. Donc, il y a un souci du presbytérium pour les fragiliser, et c'est difficile parce que ces fragilisés vivent toujours un peu de manière individuelle. Il n'y a pas de famille, le prêtre est célibataire, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de conjoint ou de famille.
Alors
quelquefois la famille...
Attendez, j'aimerais qu'on fasse réagir Marie-Claude Brandenbuch sur cette question quand même. Et puis après, on continuera d'évoquer ce qui fait la particularité de la condition de ces prêtres. Marie-Claude, est-ce que vous avez le sentiment, vous aussi, que la plupart des prêtres diocésains qui donc vivent seuls ont du mal à accepter, à reconnaître qu'ils ont des problèmes de santé, ou parfois, on en reparlera peut-être, des problèmes d'addiction?
Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire le prêtre.
Jean-Marie Onfray.
Parce que toute sa vie, voilà, le prêtre, c'est le modèle du troupeau.
Est-ce qu'il se confie à vous, par exemple?
Oui, il se confie, mais pour nous dire souvent que lui, il est toujours dans le devoir, qu'il n'a pas de droit. Quand je lui dis, mais vous avez le droit de dire que vous pouvez prendre soin de vous, vous avez le droit. J'ai un prêtre qui me disait récemment, non, moi je n'ai que des devoirs, je n'ai pas de droit. Ça signifie bien, ça situe bien l'état d'esprit de ces prêtres qui sont comme ça, voilà. Et notre mission, eh ben, c'est de leur dire, en les écoutant, qu'il faut anticiper. Pour pouvoir vous prendre les bonnes décisions et au bon moment.
Alors, Jean-Marie Onfray, on parlait donc de cette difficulté des prêtres tout court, mais peut-être des prêtres âgés d'autant plus, les prêtres diocésains qui vivent seuls, à admettre qu'ils sont en difficulté, notamment sur le plan de la santé. Vous commenciez à nous parler de leur solitude, qui, par définition, est quand même aussi liée au fait qu'ils n'ont ni femme, ni enfant, ni petits-enfants. Ils ont parfois des neveux, des nièces, des frères et sœurs. Ils peuvent être entourés. Mais il n'y a pas de famille proche à proprement dit, quoi.
Oui, et comme vient de le dire notre assistante sociale, il y avait, parce que les choses changent chez les jeunes prêtres. Les jeunes prêtres sont comme les jeunes aujourd'hui, je veux dire les moins de 40 ans. Il y a un souci d'un équilibre de vie beaucoup plus fort que chez les prêtres précédents. Je fais partie de la catégorie des prêtres précédents. C'est vrai qu'on ne se posait pas la question de son équilibre de vie, on ne se posait pas la question de sa détente, de ce à quoi on avait droit. Les plus jeunes, heureusement, je pense, y font plus attention. Donc, puisqu'on parle des prêtres aînés, c'est vrai que des prêtres arrivés à 65 ans oublient que à cet âge-là, leurs frères et sœurs dans la famille sont à la retraite et ils font comme s'ils avaient encore 30 ou 50 ans. Ce qui fait qu'on a des gros pépins de santé parce qu'il n'y a pas assez d'attention à la fatigue qui vient et au vieillissement. Le vieillissement n'arrive pas d'un seul coup, le vieillissement n'arrive pas tout d'un coup à 75 ans. Et vous avez des prêtres qui vont être très solides, je vous l'ai dit tout à l'heure, à 80 ans, 85 ans, 90 ans, qui vont continuer de faire des tas de choses. Et puis vous avez des prêtres qui sont un peu cassés parce que ils n'ont pas fait suffisamment attention à leur équilibre de vie, que parfois ils sont tombés dans des addictions, que ce soit l'alcool, le tabac ou d'autres. Et donc c'est vrai qu'on a à devoir faire attention en presbytérium, et c'est la première responsabilité de l'évêque. On n'a pas parlé d'évêque jusque-là, mais c'est la responsabilité de l'évêque. Il a ordonné des prêtres, ou ses prédécesseurs ont ordonné des prêtres. Vous savez qu'on s'engage dans l'obéissance à l'évêque et à ses successeurs. Et donc, cette cohésion-là, vous voyez, c'est pas d'abord des assistantes sociales, même si c'est essentiel, mais c'est pas d'abord des gens extérieurs. C'est d'abord une responsabilité du presbytérium d'avoir le souci des prêtres en général et des anciens. De ceux qui ont porté le poids du jour, parce qu'il y a une responsabilité diocésaine et que les anciens ont la mémoire diocésaine.
Ouais. Et ça, on va continuer d'en parler. J'aimerais qu'on accueille Monique au 04 72 38 20 23. Bonjour Monique.
Bonjour Melchior.
On vous écoute.
Eh bien, moi, j'ai comment dirais-je, le sujet d'aujourd'hui m'a fait tilt parce que j'ai eu l'occasion de le dire là à votre, la personne qui m'a accueilli.
Catherine.
J'ai perdu mon mari il y a 20 ans et j'ai senti, comme toutes les personnes qui se retrouvent toutes seules, l'inutilité de ma vie. Je dis, tu ne sers plus à rien. Et RCF m'a appelé et le père, alors comment il s'appelle, Antoine Ferréol, me dit un jour, Monique, j'ai besoin de toi. Donc, j'ai travaillé sur RCF, mais ce n'est pas pour ça que je témoigne. Oui. C'est essentiellement pour le fait que depuis 20 ans, dans ma paroisse, j'ai ouvert ma porte aux jeunes prêtres, aux prêtres de tout âge. Et ma, comment je dirais, mon affirmation d'aujourd'hui, c'est pour tous les chrétiens, quel qu'il soit. Il ne faut pas attendre que le prêtre ait 80 ans pour lui dire « je vais, si vous avez besoin de moi, je suis là ». Je pense qu'il faut savoir les accompagner depuis le jeune prêtre et même avant, le séminariste, le être là, l'accueillir chez soi, le recevoir. Et un prêtre âgé que j'avais reçu à la maison m'a dit 15 jours avant sa mort, « Monique, continuez d'accueillir les prêtres, ils en ont tellement besoin. Mais n'attendons pas qu'ils aient 90 ans ou qu'ils soient complètement cassés. Mais la famille, ils en ont point. On peut peut-être être cette famille. Voilà.
Ce soutien. Merci beaucoup, Monique. Merci de nous avoir parlé de votre engagement dans Je pense donc j'agis. Marie-Claude Brandenbusch, le rôle des laïcs, des fidèles dans cette histoire, c'est un rôle très important.
Oui, bien sûr. Mais nous, en tant que travailleurs sociaux, on a un rôle qui est professionnel et c'est accentué parce qu'ils arrivent à se confier à nous parce qu'on est tenu au secret professionnel. Ils le savent. Ce secret professionnel entraîne une relation de confiance. Le fait qu'il nous donne une grande, ça renforce la richesse de cette relation parce que les prêtres peuvent se confier à nous hors du lien hiérarchique. Et ça, c'est important de le dire et de le souligner.
Alors, Gérard Voléon, comment la Fondation pour le clergé est-elle attentive à ce que les... à préparer justement également cette arrivée du grand âge. Là, on est encore au seuil du sujet vraiment qui nous préoccupe, mais on va y arriver. On peut les aider à s'y préparer? On peut les aider à anticiper?
Eh bien oui, et c'était une des richesses de l'enquête sur la santé des prêtres qui était faite il y a 2 ans et qui a permis à la conférence des évêques avec une fondation privée et l'aide de la Fondation pour le clergé de mettre en place ce qu'on a appelé le parcours vitalité. Il s'agit d'inviter un petit groupe de prêtres à prendre soin d'eux-mêmes. Et prendre soin, ben voilà, ça commence par soi-même. Donc, c'est un parcours qui est allé sur 2 semaines, discontinues, avec une année, je crois, ou au moins 6 mois entre chaque, et où, en petits groupes, ils vont prendre soin d'eux-mêmes. Et comme le disait Marie-Claude et Jean-Marie aussi, c'est pas habituel pour le prêtre diocésain de prendre soin de lui-même.
De s'écouter finalement.
D'écouter son corps. D'écouter son corps. S'écouter, peut-être il le ferait, mais écouter son corps, ça, en général, il s'y refuse. Et donc, ces 2 semaines en groupe vont permettre à chacun de réaliser combien c'est important d'écouter son corps et d'en prendre soin. Donc, j'invite tous les prêtres diocésains qui n'auraient pas encore entendu parler de ce parcours vitalité à se rapprocher de l'équipe pluridisciplinaire du diocèse ou du vicaire qui général pour se renseigner sur ce parcours vitalité. Il est vraiment ouvert à tous et tous ceux qui en ont bénéficié en ont dit le plus grand bien.
Christelle est avec nous au 04 72 38 20 23. Bonjour Christelle.
Bonjour.
Bonjour, bonjour, c'est à vous.
Non, moi je vous appelle parce que maintenant je vis en Ardèche, je m'occupe de mon père. Mais à l'époque, j'étais sur l'Isère Et donc, j'étais catéchiste pendant 2 fois 10 ans, parce qu'à chaque fois, je suivais mes gosses. Et quelque part, on allait à la maison de retraite des prêtres qui est au-dessus de Vinay.
Oui.
Donc, et j'ai toujours été surpris par leur solitude. Par donc mes enfants, les petits que j'accompagnais, ils faisaient des dessins aux prêtres et tout. Et ça m'arrachait le cœur, parce qu'on y allait souvent pour Noël et tout, de voir leur grande solitude et me dire qu'ils avaient consacré leur vie pour nous et que quelque part, on s'en souciait pas, ou peu. Et moi, je me demandais si chaque prêtre ordonné, parce que nouveau prêtre ordonné ou nouveau prêtre, voilà, soit en charge d'un aîné sur son département. C'est-à-dire que quelque part, ok, t'as 25 ans ou 30 ans, tu deviens prêtre, et ben peut-être que tu devrais être missionné pour aller visiter au moins une fois par mois un prêtre âgé, parce que tu partages sa foi, parce que tu partages ses problèmes, sa solitude, et que quelque part, ça soit comme un parrain, mais un parrain dans l'autre sens, un parrain jeune qui parraine un prêtre âgé.
Merci Christelle, voilà une bonne idée à évoquer ce matin dans Je pense donc j'agis. Jean-Marie Onfray, j'aimerais quand même vous faire réagir sur ce sentiment de solitude que Christelle a pu apercevoir. C'est quelque chose qui revient énormément, enfin très souvent hein, chez les prêtres, cette notion de solitude.
Diocésain,
oui, j'ai souvent fait des conférences. Oui. Voilà, les prêtres religieux aussi.
Oui, oui.
J'ai souvent fait des conférences sur la solitude dans ma responsabilité nationale. La solitude, c'est à la fois quelque chose de merveilleux, puisque justement, c'est le moine, le monos, c'est la solitude. Et quand on va faire une retraite, c'est pour retrouver cette solitude. Et Jésus ne cesse de dire, venez à l'écart, etc. La solitude, c'est à la fois quelque chose de merveilleux. Et en même temps, le sentiment de solitude, c'est quelque chose qui peut être très pénible. Donc, il faut s'expliquer. Je voudrais dire d'abord que le prêtre n'est pas prêtre d'abord pour servir X ou Y, il est d'abord prêtre par rapport à Jésus-Christ. On est d'abord serviteur de Jésus-Christ. Et cette dimension religieuse, alors l'école française, à la suite de la Réforme, avait beaucoup insisté, peut-être qu'on a trop identifié le prêtre au faire. Tout à l'heure, notre assistante sociale disait ce sentiment d'inutilité. Ben oui, comme les laïcs, je voudrais dire, quand on ne fait plus rien, on a l'impression d'être inutile. Mais le prêtre doit travailler, alors c'est une démarche spirituelle, que depuis son ordination, il est aussi prêtre de Jésus-Christ, c'est-à-dire qu'il y a une relation intime avec Jésus-Christ, et que la solitude est un moment fort pour vivre cette relation avec Jésus-Christ. Je dirais, tout le sens de la prière personnelle du prêtre, c'est de trouver la richesse de cette solitude. Hélas, nous sommes dans un monde où c'est le faire qui qualifie les êtres humains, et moi je sais que, même dans ma famille, on me pose toujours la question, alors qu'est-ce que tu fais ? C'est-à-dire qu'on oublie que l'essentiel, ou une part essentielle de la vie du prêtre, c'est aussi son existence dans sa relation à Dieu par Jésus-Christ, dans la force de l'Esprit, et on est toujours en train de lui demander ce qu'il fait. Et c'est vrai qu'à partir d'un certain moment, alors j'ai dit tout à l'heure que c'est à des âges différents, on a l'impression que le prêtre ne fait plus rien. Mmh. Et là, ça devient difficile parce que de fait, on l'identifie uniquement à une tâche pastorale. Je vois, je ne suis plus curé de paroisse depuis 20 ans, puisque j'avais des responsabilités nationales, et les gens, quand je dis je ne suis plus curé, pensent que je ne suis plus prêtre. C'est-à-dire que on a l'impression que quand le prêtre n'est plus au service d'une communauté, il ne sert plus à rien et il est devenu inutile. Et là-dessus, il faut qu'on travaille. Ils sont des hommes de Dieu, ils sont des témoins de cette relation à Dieu, un peu comme les religieux. Et il faut les aider à travailler cela. Alors, pas seulement à 75 ans, et c'est une des grosses questions des EHPAD, etc. Comment on n'est pas seulement dans un lieu où on les nourrit et on les soigne, mais comment on est aussi dans un lieu où on les aide à prier. Parce que la prière au 4e âge n'est pas la même chose que la prière à 20 ans ou à 30 ans. Donc, comment nourrir cette vie spirituelle. Et c'est vrai que ce sentiment de solitude, moi je trouve très chouette, oui, l'idée de dire, moi j'accompagne pas mal de jeunes prêtres, donc j'ai des relations assez fortes avec des jeunes prêtres, mais c'est important que les jeunes prêtres aient le souci, mais que le presbytérium ait le souci des prêtres aînés. Je répète, parce qu'ils ont porté le poids du jour pendant des années et des années et qu'ils sont les témoins de l'histoire du diocèse. Et ça, c'est essentiel. S'engager dans la vie presbytérale, c'est aussi s'engager dans une histoire presbytérale.
Et on va continuer d'en parler dans un instant, toujours en direct avec vous trois, Jean-Marie Onfray, Gérard Volion et Marie-Claude Brandenbusch. Excusez-nous pour ce nom de famille qu'on écorche depuis le début de cette émission. Allez, 04 72 38 20 23. On vous attend pour discuter avec nous à l'antenne ou alors par mail à direct@rcf.fr ou si vous avez Facebook, c'est encore plus rapide. Vous rejoignez le groupe Je pense donc j'agis et vous partagez vos messages en direct. Voici Stiletto.
Hey, moi de t'entendre rire, ça me suffit. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas trouvé d'autre raison pour la vie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je suis détestable. Je sème, je sème, je sème tout ce que je gagne. Je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. J'ai pas toujours été de la partie. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Tu écris une autre histoire et moi je fuis. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Je rêve, je rêve, je rêve, je plaide coupable. Je lève mon verre, si tu m'aimes, tu comprendras que j'emmène ta peine. Même quand je m'évade, je saigne, je saigne, je saigne car je sais le mal. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qui reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu crois que je veux? Qu'est-ce que tu vois dans mes yeux? Qu'est-ce que tu sens que je veux? Que nos vivres soient le fruit de réjouissance que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Qu'est-ce que tu crois? Je veux que nos caresses en mes yeux soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Qu'est-ce que tu crois? Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance que je veux. Que la tendresse soit toujours placée devant ce temps qui reste. Je veux que nos caresses en mêlée soient notre essence. Que nos ivresses soient le fruit de réjouissance. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres. Le temps qu'il reste à nous aimer. Je serai cette fille qui fait gaffe aux autres.
Une petite douceur en ce lundi matin. Gaffe aux autres, une reprise par Stiletto d'une chanson de Ben Mazué sur RCF.
Je pense, donc j'agis. Avec Melchior Gormand et Véronique Alzieu.
Allez, on continue de parler des prêtres diocésains âgés ou aînés. Marc nous a rejoint au 04 72 38 20 23. Bonjour Marc.
Oui, bonjour. Je vous appelle parce que votre émission est toujours intéressante. Il y a toujours de quoi partager avec tous vos sujets qui aident la société à mieux se porter. Et concernant votre émission d'aujourd'hui avec les prêtres qui vieillissent, et moi, j'ai un témoignage, en fin de compte. Donc, moi, je suis immigré polonais. Je suis arrivé donc en France quand j'avais à peu près 5 ans et demi. Et mes parents ont été accueillis dans une structure, en fin de compte, de prêtres retraités.
Oui.
Et on a logé dans une annexe pendant 2 ans avant d'avoir un logement HLM. Et... autrement, je côtoie toujours des prêtres qui sont jeunes ou moins jeunes, et je constate bien, en effet, que les jeunes prêtres savent mieux s'entretenir pour leur bien-être, pour pouvoir ensuite partager mieux, et entraider mieux les personnes qui suivent eux-mêmes. Et antérieurement, les anciens prêtres, c'est vrai qu'ils n'avaient pas la notion de penser suffisamment à eux. Ils étaient au service et ils ne pensaient pas assez à eux.
Ouais.
Ça se comprend parce que moi-même, j'ai appris aussi, j'ai pris des habitudes aussi comme ça. Hein. Parce que je ne suis pas tout jeune, j'ai plus de 60 ans maintenant. Et je reconnais que moi-même, par moment, je n'ai pas appris à bien prendre soin de moi. Par moment, voilà. Et on est tous logés à la même enseigne. On doit tous savoir vivre ensemble et savoir s'entraider d'une façon ou d'une autre, partager le meilleur et bien vieillir ensemble, du plus jeune au plus vieux.
Ouais, de bien vieillir. Merci beaucoup, Marc, pour votre appel ce matin dans Je pense, donc j'agis. Jean-Marie Onfray, qu'est-ce que vous en pensez du témoignage de Marc à l'instant?
Ah ben je rejoins tout à fait. Enfin, ce que je disais tout à l'heure, c'est que je pense que il n'y avait pas que les prêtres, si vous voulez. La plupart des agriculteurs ne prenaient pas de vacances naguère. Et aujourd'hui, les enfants d'agriculteurs souhaitent organiser leur vie dans la mesure du possible pour aussi faire attention à un équilibre de vie. Si c'est pas eux qui le souhaitent, c'est leur conjoint. Donc, on a une évolution de la société qui donne à l'équilibre de vie, qui donne au bien-être une place importante. Et tant mieux. Et on vivait beaucoup dans le devoir, on l'a dit tout à l'heure, et on vit plus aujourd'hui dans l'expression du désir. Et voyez toutes les revues qui sont dans les halls de gare sur le bien-être, sur l'équilibre de vie, etc. C'est, je pense, quelque chose d'extrêmement prégnant. Alors en même temps, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, la dynamique du don de soi, la dynamique du, entre guillemets, sacrifice, est bien moins porteuse que naguère. Hein. Naguère, donner sa vie, et regardez le nombre de soldats qui sont morts en 14-18, donner sa vie pour la patrie, pour l'Église, pour ceci, pour cela, c'était évident, c'est beaucoup moins évident aujourd'hui. Alors si on revient à la question des prêtres aînés, actuellement en France, il y a environ 10 000 prêtres diocésains, et sur ces 10 000, il y en a environ 3 000 qui sont, j'allais dire, au-delà de 75 ans. Hein, à peu près 3 000, alors c'est difficile de calculer exactement. Et bien sur ces 3 000, c'est un peu comme dans la société. Dans la société, les gens de plus de 85 ans, il y en a 61% qui sont à domicile, 39% qui sont en EHPAD. Eh bien, je dirais que sur les 3 000, il y a environ 2 000 prêtres âgés qui arrivent à être autonomes et qui tiennent à rester autonomes. Oui. Et environ 1 000 qui sont dans des EHPAD, qui sont soutenus, donc dans ce qu'on appelait des maisons de retraite auparavant, parce que ils sont dans la dépendance et ils ne peuvent plus être autonomes. On choisit aujourd'hui d'aller en EHPAD quand on ne peut plus être autonome.
Marie-Claude Brandenbusch, justement, à quel moment faut-il se demander si un prêtre doit être pris en charge par une institution particulière faite pour ça? Et si oui, quelles sont les maisons, les lieux d'accueil dans lesquels ils peuvent aller? Ils peuvent être pris en main.
Accueillis.
C'est comme pour tout un chacun, il y a des lieux d'accueil spécifiques. Nous, on a la chance d'avoir un lieu d'accueil spécifique qui est la Maison Marie-Thérèse à Paris, ou qui accueille les prêtres d'Île-de-France, de la zone apostolique d'Île-de-France. Mais à la base, elle accueillait que des prêtres. Aujourd'hui, nous avons que 50% de prêtres et 50% de laïcs qui sont proches de l'Église. Nous avons aussi des prêtres qui font le choix d'aller chez les petites sœurs des pauvres, qui accueillent aussi des prêtres et d'autres prêtres qui vont dans des EHPAD laïques parce qu'ils ont été prêtres ouvriers, parce qu'ils veulent rester parmi les pauvres et ils vont dans des EHPAD de leur quartier. Mais ces établissements, bon, en général, bon, bien sûr, nous, moi je travaille beaucoup avec mes collègues d'Île-de-France sur la maison Marie-Thérèse, qui est l'établissement de référence pour nous et qui accueille prioritairement les prêtres diocésains. Et c'est notre mission première de faire Mais tout ce qu'on peut pour les faire entrer dans cet établissement, parce que cet établissement est agréé aide sociale. Déjà, il faut parler argent. Hein. Cet établissement est agréé aide sociale, ce qui veut dire que nos prêtres, qui sont des gens non imposables pour la plupart, sauf ceux qui ont eu des activités, un prêtre diocésain est non imposable, donc ça donne l'accès à l'aide sociale, qui est important pour les diocèses qui n'ont pas beaucoup d'argent comme le nôtre.
Comment, voilà. Qu'est-ce qui fait qu'un prêtre choisit plutôt d'aller dans une maison, vous l'avez déjà un peu expliqué, mais qui accueille tout type de public et plutôt des maisons où ce sont plutôt des prêtres, des religieux qui sont accueillis et dont la fondation revient à des sœurs, souvent des congrégations féminines?
Il dit un petit peu, hein, c'est leur histoire de vie qui fait le choix de l'établissement. Ils avaient très peur avant de rentrer à la maison Marie-Thérèse, mais aujourd'hui, au contraire, ils aiment bien parce qu'ils se retrouvent entre confrères. Il y a l'esprit ecclésial est vraiment très présent et très prégnant. Et il y a une belle solidarité entre eux. Et notre évêque, je rebondis sur ce que disait le prêtre tout à l'heure, notre évêque a cœur qu'ils restent en lien avec le diocèse. Et par exemple, ils leur demandent de prier pour les, ils leur demandent de prier pour les. Excusez-moi,
ça vous a perturbé. Hein,
vous avez eu un appel.
Le coup de téléphone.
Par le téléphone, excusez-moi. On leur envoie des prières, des intentions de prière, et ils se réunissent tous les samedis soirs à l'oratoire de la maison de retraite et ils prient pour les intentions du diocèse. Parce que voilà, ils ont tellement l'impression d'être invisibles, inutiles, de ne plus être en lien. On fait tout pour nous, on garder ce lien avec le diocèse.
Ils se sentent utiles.
On est un petit peu la passerelle.
On va accueillir Michel avec qui est au standard au 04 72 38 20 23. Bonjour Michel.
Oui, bonjour Melchior. Bonjour à tous.
Bonjour, bonjour. On vous écoute.
Eh bien, voilà, depuis le début de l'émission, j'entends les prêtres de s'occuper d'eux-mêmes sur le plan de la santé, également le mental, du moral, la question de la solitude. Moi, je fais partie d'un mouvement de la pastorale familiale qui s'appelle Vivre et Aimer. Ce mouvement est connu pour s'occuper des couples et une relation durable,
oui.
Mais il accueille également les prêtres. Et il les accueille non pas en tant que pasteur, mais en tant qu'homme. Et on constate que c'est un lieu, pour ceux qui viennent rejoindre notre mouvement, dans lequel ils apprennent, comme beaucoup de couples, d'ailleurs, ils apprennent à exprimer leurs sentiments, à réfléchir sur leurs besoins, mais encore une fois en tant qu'homme. Et ça leur permet d'échanger là-dessus, soit avec d'autres prêtres, soit avec des couples, et de pouvoir penser à eux, de pouvoir exprimer ce qu'ils ressentent, ce qu'ils vivent. Et les témoignages que l'on a des couples qui sont dans notre mouvement, des prêtres, pardon, qui sont dans notre mouvement, sont assez extraordinaires parce qu'ils disent souvent que c'est presque le seul lieu dans lequel ils peuvent parler ainsi d'eux-mêmes. Et ils osent parler ainsi d'eux-mêmes et que ça les aide beaucoup.
Eh bien, merci beaucoup, Michel, de nous avoir présenté ce mouvement « Vivre et aimer ». Ce que je trouve intéressant, Jean-Marie Onfray, c'est ce genre de lieu d'association aussi qui existe. Et je sais que dans la seconde partie de l'émission, on en mettra en avant notamment à destination des nouveaux prêtres, hein, des jeunes prêtres. Pour les prêtres un peu plus âgés, est-ce qu'il existe comme ça des mouvements, des associations qui permettent vraiment une écoute et puis d'écouter aussi leurs besoins?
Oui, je voudrais dire, il n'y a pas que vivre et aimer. Oui. Les prêtres qui ont eu la chance, et une bonne partie l'ont eu, qui ont eu la chance de participer à des groupes de révision de vie, quel que soit le mouvement, à des groupes de prière, à des groupes, vous voyez les équipes Notre-Dame ou autres, sont des prêtres qui ont eu la possibilité, avec des laïcs, de pouvoir partager sur la vie de prière, sur la vie de famille, sur le travail, etc. C'est vrai que c'est la paroisse qui isole le prêtre, parce que la paroisse, si on n'y fait pas attention, n'est pas tellement un lieu de partage de vie. On a un certain nombre de tâches à y vivre, on a à préparer la liturgie, les sacrements, et un prêtre qui s'enfermerait dans la réalité paroissiale serait uniquement pris, j'allais dire, par des obligations liturgiques, avec cette absence de vrai partage. Heureux sont les prêtres, et il faut le dire aux jeunes prêtres, heureux sont les prêtres qui ont des réunions, alors c'est pas de la réunionnite, mais qui ont des réunions de partage, comme Vivre et Aimer ou d'autres, où on peut parler de soi et où on n'est pas... Alors on est le prêtre, bien sûr, mais on n'est pas là pour diriger la réunion, pour animer la réunion, on est là pour partager sur ce qu'il y a de plus profond en nous-mêmes. Et ça, c'est une très bonne chose pour préparer le souci de soi, pour garder du souci de soi, et pour préparer, j'allais dire, une vieillesse. Et je vois parmi les prêtres âgés chez nous, la différence entre ceux qui ont été dans des équipes comme cela et ceux qui n'y ont pas eu cette chance.
Gérard Voléon a parlé de l'accueil des prêtres âgés dans des instituts spécialisés, dans des maisons spécialisées, type maison de retraite ou EHPAD. Dans quelle mesure est-ce que la Fondation du Clergé, pour le clergé, aide aussi au maintien à domicile à travers l'aménagement des logements, à travers la prise en charge d'un certain nombre de financements pour faciliter le maintien?
Oui, encore une fois, c'est à la demande des diocèses ou et des équipes pluridisciplinaires qui veillent sur les prêtres. On, La Fondation a soutenu financièrement, je le disais tout à l'heure, par exemple, des montes-escaliers ou la mise en place d'une alarme, la mise en place de lits médicalisés et dans des lieux de vie adaptés, la mise en place, par exemple, d'un système de rafraîchissement d'air ou la création d'un pôle... Dans certains EHPAD, par exemple, on a pu soutenir la création d'un ce qu'on appelle un PASA, donc un pôle d'activité et de soins adaptés pour des personnes désorientées. En fait, à partir du moment où il s'agit de soutenir le bien-être et la protection sanitaire et sociale d'un prêtre, une demande peut être faite à la Fondation et elle va le soutenir.
Et alors, en ce qui concerne notamment l'alimentation, est-ce que tous les prêtres sont en mesure, lorsqu'ils sont très âgés ou âgés, de manger correctement, de s'alimenter correctement? Ça peut paraître une évidence, mais ça ne l'est peut-être pas tant que ça. Il faudrait peut-être reposer la question à Marie-Claude Brandenbuch.
Oui, ça ne l'est pas tant que ça, c'est évident. Ils ont du mal et beaucoup de prêtres ne savent pas faire la cuisine. Bon, heureusement, il y a les ports de repas. On utilise beaucoup les ports de repas des mairies qui donnent des repas équilibrés. L'alimentation est un souci. Pour eux, c'est évident. Plus ils avancent en âge, plus c'est compliqué de faire les courses, de faire le repas. Donc, on fait appel aux associations. On travaille en lien avec les mairies pour permettre le maintien à domicile. Mais je rebondis sur ce que disait le monsieur de la Fondation pour le clergé. Bien sûr, notre travail, nous, c'est une de nos activités, c'est de faire appel à eux pour avoir, principalement pour avoir des fonds, les remplacements de baignoires par les douches. C'est souvent le nécessaire et indispensable. Les presbytères sont des anciens bâtiments mal installés.
Pas toujours bien aménagés.
Pour nous, c'est très précieux.
Et est-ce que ça peut aller parfois jusqu'à un changement de domicile, demander à ce que le prêtre puisse être installé ailleurs, avoir un logement plus adapté, plus accessible notamment?
C'est ce que nous faisons, quand nous voyons que le logement n'est plus... soit on va à l'EHPAD, soit on trouve une autre solution. Mais c'est en général, quand le logement est vraiment plus adapté, le choix est fait de l'EHPAD. Où ils retrouvent un logement adapté, la nourriture indispensable et nécessaire, et un équilibre de vie.
Voilà. Marie vient de... Oui, pardon.
C'est difficile parce qu'ils vivent ça comme un glissement, mais au bout de très peu de temps, on voit une amélioration qui arrive. Ou à moins que si ce sont des troubles psychiques, effectivement, après, on va sur le PASA. On a de l'aide. On est bien accompagné.
Bonjour Marie.
Oui, bonjour. Oui, moi j'ai beaucoup aimé tous ceux qui ont appelé, parce que c'est vrai que ce que disait le père Onfray, c'est le tissu de relations que le prêtre a pu faire, ça vient de son caractère, mais ça vient aussi de ses différentes situations dans l'Église, et le fait d'être un prêtre curé fonctionnaire sans pouvoir plus autre chose, ça n'aide pas. Nous, on a la chance de vivre, d'avoir géographiquement proche de nous un prêtre très âgé, mais qui nous a accompagnés dans notre groupe, dans nos balbutiements de groupe biblique. Il venait chez nous, chez l'une, chez l'autre, quand on se réunissait. Le jour où il n'a plus pu faire ce déplacement, nous sommes venus chez lui. Et nous venons chez lui, nous y allons cet après-midi. Et il est très, pour lui, c'est très important, pour nous aussi. Et à le retour de lui, du fait qu'il est resté, c'est tissé tout un ensemble de personnes qui ont le souci de l'accompagner. Si jamais il a besoin chez le médecin, qu'il a personne, chez le dentiste, chez le, une personne lui fait, qui est très reconnaissante, lui fait son repas, d'autres lui apportent, et lui-même se fait, parce qu'il se trouve qu'il savait cuisiner, donc c'est aussi une chance. L'autre jour, il me dit en riant, mais je sais même faire des gâteaux, vous savez.
mais ce qui est intéressant, Marie, et ce que vous soulignez, c'est l'importance pour un prêtre, aujourd'hui en tout cas, de se tisser des relations, d'avoir un réseau finalement, avec des amis, des personnes sur qui on peut compter. Jean-Marie Onfray, vous confirmez, c'est le cas pour vous, j'espère?
oui, je n'ai aucun souci, tout va bien. Non, ce que je voulais souligner, c'est on a l'impression que le prêtre choisit son lieu. C'est l'Église, c'est l'évêque, c'est le conseiller épiscopal qui nomme jusqu'à la mort les prêtres. Et donc, ce se fait dans une discussion. Donc, quand quelqu'un est curé, bien, il est curé. Donc, à partir de 75 ans, on réfléchit. Est-ce que la personne est suffisamment forte pour être dans un presbytère et donner des coups de main? Est-ce que la personne est suffisamment forte pour vivre encore dans une vie relationnelle habituelle? Ou est-ce qu'il faut l'aider? Donc ça, ça se réfléchit au niveau du conseil épiscopal, et on nomme un prêtre dans un lieu. L'Église est responsable, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à la mort du lieu. Et la réflexion, c'est en conseil épiscopal, donc en lien avec les équipes, y compris donc les assistantes sociales quand il y en a, pour dire est-ce que tel prêtre peut encore être autonome ou est-ce qu'il ne peut plus être autonome. Et là se pose la question de l'EHPAD. Alors normalement, c'est l'EHPAD du diocèse, parce que elle va coûter normalement moins cher. Si un prêtre veut se loger lui, il faut qu'il ait des moyens à lui. Et on l'a dit tout à l'heure, les prêtres n'étant pas imposables et la retraite de la Cavimac étant tout de même ce qu'elle est, c'est-à-dire assez restreinte, le prêtre ne peut pas avoir d'autonomie de logement, sauf s'il a des biens familiaux et qu'il va aller dans un lieu familial, dans un lieu qui lui appartient. Donc toujours se souvenir que c'est l'Église qui nomme en mission et que le prêtre, ça se vit en dialogue avec le prêtre.
Marc-Claude Brandenbuch, est-ce que beaucoup de prêtres rejoignent leur famille au moment vraiment où l'âge avance et où leur santé et leur force déclinent?
Honnêtement, de mon expérience, non. Non. Ils préfèrent soit rester dans le presbytérium. C'est souvent leur choix de rester dans le presbytérium. Là où ils ont exercé, ils restent à proximité de leurs paroissiens et de leurs relationnels. Après, quand la santé décline, c'est l'EHPAD et ils rejoignent l'EHPAD. Mais autrement, rejoindre les familles, il y en a, c'est vraiment très marginal. Enfin, de mon expérience, je peux pas. J'ai 10 ans de recul, mais non, peu rejoignent leur famille.
Et est-ce que
Les familles sont éloignées, comme disait les familles, c'est des neveux, c'est des nièces, quelquefois des frères et sœurs, mais plus ils avancent en âge, moins il y en a. Et non.
Alors, on a entendu l'importance à plusieurs reprises des liens tissés par ces prêtres et qui perdurent à travers le temps et qui peuvent aller les accompagner jusqu'au bout. Est-ce que vous avez le sentiment que lorsqu'un prêtre entre dans une maison de retraite ou un EHPAD, les paroissiens, par exemple, ou les amis continuent de venir les voir, même si le lieu est un peu éloigné?
Quand la décision est prise, ils ont des, on leur promet de venir, mais nous, il y a l'éloignement. Je veux dire qu'on est en banlieue, on est à l'est de Paris. Aller au cœur de Paris, c'est déjà coûteux, parce que les paroissiens qui promettent, c'est souvent des personnes d'un certain âge. Et malheureusement, non, c'est difficile. Et c'est pour ça qu'on est vraiment là pour les soutenir et les accompagner, parce qu'ils ont besoin de se relationner. Mais encore une fois, s'ils ont su tisser des liens, moi je peux vous donner l'exemple d'un prêtre qui a 90 ans, qu'on va chercher tous les mois en voiture et qui vient encore animer des réunions sur la paroisse. Et ça, c'est formidable parce que le lien est là, mais c'est marginal. En général, non. Ils sont quand même, une fois entrés en maison de retraite, ils ne peuvent... Bon, heureusement, ils se soutiennent entre eux. Ils se soutiennent entre eux. Et moi, je sais que pour ceux de mon diocèse, ils ont le souci de l'un et de l'autre. Je viens de rentrer un prêtre là. Et ben, les autres ont dit, qu'est-ce qu'on peut faire pour lui? Parce qu'ils voient bien qu'il est désorienté, qu'il y a des soucis.
Il y a une solidarité, il y a une attention.
Il y a l'attention de l'autre et ça reste.
Gérard Voléon.
C'est très, très, très prégnant.
On arrive à peu près au terme de cette émission. Gérard Voléon, vous avez le sentiment que la Fondation pour le clergé doit consacrer de plus en plus d'argent, de fonds à la prise en charge de ces prêtres âgés, de ces prêtres aînés dont le nombre grandit puisque l'espérance de vie s'allonge.
Oui, les besoins sont énormes. Et aussi bien pour le maintien à domicile tant que c'est possible que pour la mise en place, la rénovation de lieux de vie adaptés. Je voudrais citer deux initiatives on a eu l'occasion de soutenir avec la Fondation pour le clergé. C'est des maisons, ce que certains diocèses ont appelé des maisons sacerdotales, en tout cas des petits foyers logements qui regroupent 4 ou 5 prêtres âgés et qui leur permettent un intermédiaire entre l'autonomie complète et la maison de retraite.
Très vite, parce qu'on arrive au terme de cette émission.
Oui, eh bien, je voulais rappeler que, puisque l'émission s'appelle « Je pense, donc j'agis »,
oui,
c'est qu'un des moyens d'agir, c'est de soutenir la Fondation pour le clergé, qui elle-même soutient toutes ces actions, toutes ces initiatives portées par les diocèses et les diocésains.
Merci beaucoup Gérard Voléon d'avoir été avec nous de la Fondation Nationale pour le Clergé. Merci Marie-Claude Brandenbusch, assistante sociale en Seine-Saint-Denis, et puis Jean-Marie Onfray de la CEF. Merci au studio de Tours qui vous accueillait, Gérard, ce matin. Merci Véronique, dans un instant on se retrouve, on parle des nouveaux prêtres.